1, 2, 3, climat.
L'émission 100% solution.
Comprendre, dialoguer, bifurquer.
Sobriété et efficacité.
1, 2, 3, climat.
Sur Radio Barthas 107FM.
Bonsoir, ce soir vous êtes bienvenus sur 1, 2, 3 Climat, sur Radio Barthas sur le 107FM. Ce soir on va vous parler de la culture et des spectacles. Comment continuer à faire la fête, à profiter de la culture, tout en essayant de limiter notre impact. Et on accueille Hervé. Bonsoir Hervé.
Bonsoir.
Bonjour Hervé.
Éclairagiste et intermittent intermittent du spectacle.
C'est ça, oui.
Et on accueille aussi Sophie.
Bonsoir.
Bonsoir Sophie.
Membre de la commission éco-responsabilité de l'association du Festival de la Soupe. C'est ça ?
Oui, c'est ça, oui.
Ah, j'ai tout mis.
Tout de suite, ça fait un sacré titre.
Beau titre,
oui. Oui, tout de suite. On a toujours Philippe.
Bonsoir.
Et Manu.
Et bonsoir tout le monde.
Et voilà, c'est parti. On va maintenant lancer la chronique de Philippe.
On dit qu'il y a des microclimats. Il y a aussi la micro-connerie qui peut sévir sur des régions réduites, voire très petites, de la taille d'un enfant, par exemple.
La politique que je mènerai dans les 5 ans à venir sera donc écologique ou ne sera pas.
Bon alors c'est à moi, si j'ai bien compris, de ce mois-ci d'annoncer les mauvaises nouvelles.
J'en avais marre, moi.
Oui, je vois ça, Yannick. Donc 1 minute 30. Ma chronique doit faire plus d'une minute trente, parce que c'est le temps qu'a consacré François Bayrou aux problèmes écologiques hier. Donc voilà. Bon, j'ai déjà gagné 20 secondes. Je pense que j'aurai pas de mal à faire plus d'une minute trente. Alors, donc je me suis penché sur le bilan carbone, on va dire, du milieu du spectacle. Hein. Bon, j'ai trouvé quand même pas mal de choses, notamment de la part du syndicat national des entreprises des activités culturelles, le SNEAC, le Shift Project, qui est un groupe de réflexion là, qui travaille sur tous les sujets de la transition carbone et qui ont fait quelque chose sur le spectacle. Ce que je me suis aperçu, c'est un peu comme ça nous est arrivé, c'est difficile de donner des chiffres très précis. Il y a tellement de diversité et de discipline dans le spectacle que bon, voilà. Mais pour démarrer, un petit exemple. Un festival en périphérie d'une grande ville, 280 000 personnes, ça émet 15 600 tonnes de CO2, ce qui représente le bilan en carbone de 1 500 Français pendant une année. Voilà. Bon, je vous avais dit, hein, c'est les mauvaises nouvelles. Donc
on va aller en spectacle et en festival.
Alors, voilà, trois grands postes de consommation et de pollution. Le premier étant, on l'a déjà retrouvé dans plein d'autres secteurs, c'est le transport, évidemment. Ça représente 75% du total. Et le plus gros poste, c'est le transport des spectateurs, qui représente 66% du total. Et aussi le transport du matériel, des artistes, voilà, les décors, etc. Donc, voilà, le transport, c'est le top one. Après, le deuxième poste, donc vous voyez qu'il reste 25%, hein, donc je n'ai pas trouvé de chiffre très précis sur comment se décomposent les derniers 25%, mais le deuxième poste, c'est quand même la consommation d'énergie. Il y a beaucoup de salles, en fait, beaucoup de bâtiments qui sont assez vieillissantes, il faut bien le dire, et qui sont globalement mal isolées. Il y a même des salles très anciennes, hein, donc où il n'y avait aucun effort d'isolation, évidemment, il y a 50 ans. Donc ça veut dire chauffage en hiver, climat en été, voilà. Donc ça, c'est aussi un poste important. Et ensuite, dans la consommation d'énergie, on a toute la partie éclairage, sono, etc. Alors ce soir, on a un spécialiste de l'éclairage, donc on va en reparler longuement.
Pour nous expliquer plus tard.
Voilà. Ensuite, le dernier poste, ça concerne les festivals. Bon, les salles de spectacle aussi, évidemment. C'est toute la partie déchets. Et là encore, on a On a une spécialiste du déchet en festival. Voilà. Par exemple, dans un festival... Parce que, bon, il y a les déchets qu'on génère pendant le festival, les gobelets, les assiettes, etc. Mais il y a aussi tout ce qui est publicité papier, les flyers. Par exemple, le festival d'Avignon distribue 115 000 flyers par an.
Pendant le festival ou tout le...
Non, oui, c'est les programmes, en fait. C'est donc plutôt pendant le festival, en fait. Hein. Alors, la scénographie aussi... C'est dans le chapitre des déchets. Hein. Beaucoup de décors ne sont utilisés qu'une seule fois, fabriqués et utilisés qu'une seule fois. Les costumes, c'est pareil. Et puis, il y a... Alors ça concerne plus les grands festivals hein, qui fournissent à manger, on va dire. C'est souvent de l'alimentation trop carnée, non bio. Voilà. Mais quand même, bon, pour finir ma... J'ai pas pu m'empêcher pour finir ma chronique. Je veux quand même dire... j'ai trouvé à travers les documents que j'ai consultés qu'il y avait quand même une grande sensibilité à cette transition énergétique hein, chez les artistes et les pros du spectacle, les organisateurs. Ils sont quand même tous favorables à faire des efforts, j'ai l'impression. Hein, on va en reparler après, évidemment. Mais la particularité du spectacle, c'est que ça met en jeu aussi les spectateurs. C'est-à-dire que si les spectateurs ne sont pas prêts à faire des efforts, on l'a vu, hein, c'est le poste le plus important, ça ne marchera pas. Donc là, vraiment, il s'agit bien d'un effort collectif et d'un rapport... voilà. Après, le spectacle, c'est quand même un sujet délicat, parce que là, on parle de maintien du lien social et tout ça. Donc, est-ce qu'on est prêt à polluer un peu plus pour maintenir ce lien social ? Quand on compare à la pollution de, je sais pas, d'une boîte qui fabrique des fringues qui vont être jetées 6 mois après.
Ce qu'on discutait le mois dernier.
Exactement. T'as vu cette transition ?
Ah, trop fort. T'aurais dû commencer par ça.
J'aurais dû commencer par ça, voilà. Donc voilà, la question est posée. Hein, voilà, il faut pas oublier que le spectacle, c'est pas n'importe quelle activité humaine.
C'est le transport, c'est le partage de la culture qui reste indispensable pour
tout à fait
continuer à vivre ensemble. Merci Philippe.
C'est aussi 5% du PIB.
Français.
La culture.
Oui,
ah
la
oui.
Culture. Oui. Ouais, cinéma et tout. Après, oui. Pour les décors, on a une solution. En ce moment, c'est la Californie, ils brûlent tous.
Ah oui, c'est vrai.
Il n'y a plus de déchets. Hein.
Oui,
au moins. Mais le bilan carbone, il n'est pas meilleur.
C'est pas terrible.
On va maintenant discuter un peu avec Hervé.
Force à vous !
Interview climat.
1, 2, 3, climat.
Du coup, Hervé, un peu pour qu'on comprenne un peu, qu'est-ce que tu fais, comment tu travailles
Alors, moi déjà, je suis intermittent du spectacle, je suis technicien du spectacle, je gère des installations son, lumière, vidéo, structure, pour des événements autant en extérieur que dans des salles, autant pour des artistes que pour des prestataires techniques. Et voilà, je fais ce métier-là depuis à peu près 32 ans maintenant.
Ah oui,
donc ça fait un petit peu.
T'as côtoyé pas mal de lieux et de personnes.
Gens, pas mal ouais. De lieux, j'ai vécu beaucoup de générations différentes de matériel, si on doit discuter du matériel au niveau des projecteurs. Et voilà, où à chaque transition, on a eu de « on n'y arrivera pas », « la lumière, elle n'est pas pareille », et à force d'avancer, ben, les nouvelles générations arrivent et... Les gens qui ont connu oui. L'halogène ont du mal à passer à la LED et les gens qui n'ont connu que la LED ne savent oui. Pas pourquoi on faisait de l'halogène.
D'accord. Et tu travailles où, Hervé ? Parce que je crois que tu voilà, t'as une tu zone, navigues. On va dire, voilà, tu navigues quand même beaucoup.
Je navigue beaucoup, donc je travaille en Lozère, je travaille aussi dans la Loire. Après, avec des artistes, je peux aller au bout du monde. Voilà, où on est là pour présenter des spectacles, on est là pour soutenir les artistes et un artiste s'accomplit mieux quand il présente son spectacle partout dans le monde entier, s'il peut.
Oui, dans de bonnes conditions. Ça fait pas. Oui. C'est l'accompagnement technique en fait.
Et cet accompagnement, il est souvent nécessaire parce qu'on utilise des techniques un peu spécifiques et que aller jouer très loin, ça coûte très cher à l'artiste, et que si on y va et que ça marche pas, c'est ouais. Comment expliquer ? C'est frustrant pour tout le monde. Et, et on a un métier, quoi, surtout les artistes. En fait, on peut très bien faire son spectacle tous les jours. Et on aura des applaudissements. Et un jour, on va se louper. On va faire ou un mauvais spectacle ou une mauvaise séance. Et ça, les gens vont en parler pendant des années.
C'est ça qu'on va retenir.
Voilà, c'est ça qu'on va retenir plus longtemps. On oublie plus vite les succès qu'on n'oublie pas les échecs.
Oui. Alors, quels sont tes différents lieux de travail, en fait ?
Eh bien, ça peut être ou des festivals en extérieur.
Donc en extérieur, oui.
Ou
des
salles de spectacle qui nous accueillent. Ou des fois des lieux insolites, des gens qui vont inviter du public à un concert dans une usine. Parce qu'ils veulent filmer ou parce que le partenaire, une entreprise veut que le concert se passe chez lui. Et donc là, on doit équiper le lieu avec toute la réglementation qui va avec au niveau sécurité.
Ouais. Et dans ces cas-là, qui est le matériel ? Enfin, comment tu fonctionnes du coup pour ce type de lieu-là ?
Alors le matériel appartient à des prestataires techniques, des sociétés qui peuvent
qui achètent
du matériel pour le relouer. Qui ont des quantités astronomiques de matériel, parce qu'ils doivent avoir à peu près toutes les gammes de matériel que les artistes peuvent avoir besoin, autant en vidéo, en lumière qu'en son.
Il y a du monde sur ce marché-là ou c'est assez restreint ?
Non, il y a beaucoup de monde. Bon, après, les sociétés ont des fois des noms différents, mais c'est les mêmes patrons parce que...
C'est l'entrepôt qui change.
Voilà. C'est, Mais il y a du monde. Hein, et, après, c'est des métiers qui sont difficiles aussi parce que c'est des investissements énormes et que les retombées, les locations sont... ces gens-là, souvent, le matériel, comme on dit, si on arrive à l'équilibre, ça veut dire que si les locations du matériel arrivent à ressortir la valeur du matériel qu'il a fallu pour l'acheter, la plupart des patrons sont
contents.
Sont contents.
C'est à zéro, quoi.
Voilà. D'accord.
Et du... Oui, pardon. Dans la période relativement longue de ta profession, tu as vu évoluer, comment ça évolue un peu d'un point de vue... Là, on parle...
Oui.
Pollution, impact global de ce...
Le matos déjà en lui-même,
le matériel,
d'éclairage,
par exemple. On va parler de l'énergie, parce que de toute manière...
Parlons énergie,
ça restera l'énergie à la base.
Sur Barthas, d'ailleurs.
Pour moi, l'énergie, je peux prendre la comparaison par rapport à un projecteur halogène. Un PC ou un PAR consomme 1000 watts à l'heure. Et maintenant, on arrive à faire la même chose avec un PAR LED qui fait 200 watts.
D'accord. Donc 5 fois moins.
5 fois moins.
Pour le même rendu, en fait.
Ça ne sera jamais tout à fait le même rendu, diront des experts, mais pour un rendu, pour moi, équivalent.
D'accord. Même
si on a tendance à mettre 5 fois plus de projecteurs.
c'est ce qu'on disait tout à l'heure en préparant l'émission.
C'est qu'une question d'esthétisme, parce qu'en fait, ce n'est pas forcément nécessaire, selon moi, c'est mon avis personnel. Oui. Mais j'ai quand même pu constater que avant, quand on faisait un festival en extérieur, on demandait à EDF des 400 ampères par phase en triphasé pour fournir
et la scène et
le site. Alors que maintenant, on peut travailler sur des valeurs de 250.
Donc c'est quand même un signe de...
Il y a un vrai progrès sur la consommation.
Il y a un vrai progrès. Je pense que ce progrès-là vient plus des prix de la hausse de l'énergie que...
C'est un gain pour l'environnement, mais c'est parce que c'était un risque financier.
Voilà. Après, gain financière. Pour l'environnement, pareil, on veut agrandir le débat. Avant, on avait des projecteurs qui avaient des ampoules halogènes, où la totalité du projecteur et ampoule étaient recyclables.
Oui.
Maintenant, avec des projecteurs à LED, je ne sais pas, parce qu'il y a beaucoup d'électronique dedans, il y a beaucoup de matériaux.
Il y a les terres rares, il y a tout le système
qui sont rares. Bon, avant,
tu veux dire qu'un projecteur, c'était du métal et une ampoule, et puis...
Voilà.
Ouais. Ah oui.
Une fois que le projecteur est cassé, on prenait, on pliait tout, on enlevait le verre et on l'envoyait à la ferraille et ça et redevenait un projecteur ou autre chose.
Autre chose.
Maintenant, ça doit pouvoir se faire parce que de toute manière, pour les constructeurs, c'est une norme que l'Europe demande, à ce que tout ce qui soit vendu sous la norme CE soit recyclable, où il faut avoir une charte avec des filières pour recycler. Je ne sais pas si tout le monde respecte. Je ne suis pas rentré...
C'est un peu théorique, parce que les terres rares dans les petites pièces, on sait que c'est compliqué à récupérer.
Que c'est compliqué, mais après... voilà.
Est-ce que ça se répare déjà un projecteur à LED, par exemple ?
Alors, c'est ça.
Il y a cet aspect-là.
Pour moi, ça dépend du prix d'achat. Dans les sociétés avec lesquelles je travaille, ils achètent des projecteurs qui coûtent quand même très, très, très cher. Mais la plupart des projecteurs se réparent. D'accord. Après, je vois beaucoup de gens qui achètent du matériel, je ne vais pas citer de marque, mais beaucoup plus bas de gamme. Et
ça se répare pas. Ou difficilement.
Ça ne se répare pas, moi, ouais. Je préfère dire, parce que...
J'ai trouvé un Peugeot sur Alibaba à 3 euros. Tu me conseilles de l'acheter à l'aide.
Je pense qu'il ne se répare pas, mais c'est 3 euros.
Oui.
Voilà, c'est souvent ce que j'entends, hein, de dire c'est pas grave si ça se répare pas, parce que ça coûte que 3 euros. Quoi. Mais après, pour moi, des fois, c'est un peu du gaspillage de ressources.
Voilà, c'est le coût qu'on paye nous, mais on sait bien, nous, que c'est, en termes de ressources, c'est bien plus élevé. Quoi.
Voilà, ouais. Mais moi, pour le point que je peux en faire, je trouve que la plupart des festivals font des gros efforts sur la consommation d'énergie, même si c'est pour...
C'est pour un gain financier.
Si c'est pour un gain financier...
Bah, mais c'est un gain pour l'environnement, au final.
Ils le font, et après, moi, j'ai toujours tendance à dire ça sera mieux demain. Et je trouve que les gens qui créent du matériel aujourd'hui le créent de plus en plus léger, de plus en plus compact. Ce qui fait qu'avant, pour faire la lumière, le son, pour une grande scène, on devait déplacer pratiquement deux semi-remorques et un poids lourd. Alors que maintenant, pratiquement, on doit tout pouvoir rentrer dans une semi-remorque et un poids lourd pour faire à peu près la D'accord. même chose. Je trouve que le son, là, les dernières avancées technologiques qu'il y a, c'est vraiment dans le son. Où, pareil, au niveau de l'énergie, maintenant, on arrive à avoir des puissances très confortables pour le public avec des consommations électriques de plus en plus faibles.
Quoi. Et du matos plus petit aussi.
Et du matériel plus petit et plus léger.
Oui. Donc... On retombe sur la question du transport. Ça fait quand même un peu moins de choses à transporter.
Après, voilà, c'est de toute manière, oui, le coût dans mon métier, qui est la technique, le coût le plus énergivore, c'est le transport et le personnel.
Oui.
Comme on dit toujours, le personnel, ça coûte trop cher.
Mais
heureusement qu'il est là. Parce
en termes de coût financier, là, tu parles. Oui.
En termes de coût.
De coût financier sur un événement. Oui. Et même parce que bon, c'est un cliché, mais on dit que les techniciens mangent beaucoup de viande, donc
alors le bilan carbone des techniciens devrait peut-être pouvoir s'améliorer un peu.
Et on nous propose de plus en plus dans ce qu'on appelle les catering, les repas sur place, quand même des repas végés, quoi, de moins en moins carnés.
Et voilà.
Mais je pense pas que ça soit pour notre santé non plus.
Oh bah, par la même occasion, c'est un peu pour votre santé. Donc voilà.
Est-ce qu'il y a une évolution à attendre ou à redouter avec l'émergence de l'IA pour ces métiers-là, du son, de la lumière?
Forcément, l'IA est en train de tout envahir. Et oui, puisque de toute manière, on a des consoles qui sont de plus en plus petites, qui peuvent produire de plus en plus de choses. À un moment, toutes nos consoles auront une espèce d'IA qui feront les choses à notre place. Déjà, maintenant, il y a des consoles son où j'appuie sur un bouton et ça fait le son à la place de la personne. Ça règle les niveaux des micros, selon le style de musique.
Ça le fait, tu n'as plus de réglages à faire.
Les gens n'appellent pas ça une IA, mais c'est déjà un peu
c'est une IA. C'est l'algorithme.
Ouais. On a des nouveaux projecteurs qui peuvent changer de couleur, qui peuvent bouger, mais chaque projecteur prend une multitude de paramètres. Maintenant, les consoles, quand je dis à la machine de faire ça, je ne rentre pas la multitude de paramètres pour qu'elle le fasse. La machine, je lui dis, je veux que tu ailles de là à là, en temps de temps. Donc, il y a quelque chose à l'intérieur qui le fait à ma place. Oui,
c'est lié à l'informatisation. En fait.
Voilà.
Ouais. Alors là, on a parlé technique, mais donc, tu côtoies aussi des compagnies, des artistes. Tu penses que, par rapport à ce que je disais tout à l'heure, tu penses qu'ils sont un peu sensibles à ce problème, notamment au niveau des costumes, comme je disais, des décors. Oui, tu dois côtoyer aussi des scénographes, j'imagine.
Oui, oui. Je pense qu'ils y sont sensibles, mais c'est une question qui est toujours délicate avec la création artistique. Ça veut dire de dire, moi, quand quelqu'un crée, j'ai envie qu'il soit libre de créer. Donc il faut trouver un équilibre.
Il va pas reprendre les costumes de l'autre d'avant parce que ça va pas aller tout à fait.
Et après bien. Ça dépend des secteurs parce que sur certains secteurs comme sur les opéras et tout, ce qu'il faut voir surtout c'est que les gros décors sont fabriqués par des artistes et que quand un artiste a fabriqué un décor pour un spectacle, il ne veut pas forcément voir son décor dans la publicité d'autre chose. Quoi.
C'est une œuvre d'art.
C'est considéré comme une œuvre. Donc, ils doivent être stockés pendant une dizaine d'années.
Ah, d'accord. Ah oui.
Si vous travaillez avec les comédies françaises, vous vous apercevez que quand on change un directeur d'une comédie qui va dans une autre comédie, eh ben, y a des camions qui sont mis à sa disposition pour enlever tous les décors qui ont été créés sous sa direction qui vont aller dans la ville où il va. Si jamais il veut remonter la pièce avec d'autres acteurs,
il emmène
ses décors avec lui. Après, je trouve que ça, c'est en train de se démocratiser. Ouais. Ça veut dire que même quand on va... Moi, je me rappelle avoir été à Avignon, où à la fin d'Avignon, toutes les compagnies, tous les techniciens, on le savait, il y a un endroit où on allait, où tous les gens jetaient les moquettes, les tapis de danse, les morceaux de bois. Et on pouvait aller un peu piocher dans l'ébène. Maintenant, je ne veux pas dire que l'ébène n'existe plus, mais les compagnies repartent avec leurs décors.
Ils jettent peut-être moins, du coup.
Jettent moins.
C'est vrai que tout ne peut peut-être pas se réutiliser, mais bon, je sais pas, des tapis, des trucs. Bon. En tout cas, tu sens qu'il y a une réelle motivation pour ça.
Mais je pense que depuis le confinement, où la plupart des artistes et des gens de la culture ont quand même eu, je vais pas dire une année sabbatique, parce que ça n'a pas été une année sabbatique, hein, ça n'a pas été une année facile pour tout le monde, de toute manière. Mais du coup, il y a beaucoup de réflexions qui se sont faites sur cette transition énergétique, où on en parlait déjà avant, mais surtout sans direction, vers quoi aller.
Oui.
Je crois qu'avant le confinement, en fait, les chiffres que tu as pu nous donner, ils n'y étaient pas, ils n'existaient pas. Personne n'avait été chercher les chiffres.
C'est assez récent, alors.
Dans les métiers, je trouve, de la culture, quand même, on a toujours été assez réactifs à réagir quand on nous attaquait ou sur notre statut et tout, mais sur ces questions-là aussi. Donc, du coup, j'ai entendu les balbutiements. J'ai entendu dire les gens, il faudrait qu'on joue localement, qu'on arrête...
Qu'on n'ait plus de déplacement pour limiter les déplacements.
Qu'on n'arrête pas de se déplacer. Après, du coup, une fois que les gens ont posé cette question-là, il y a d'autres qui disent, non... Nous, on veut pouvoir montrer ce que l'on fait au plus de gens possible.
Oui, puisqu'on disait que la culture, c'est un partage. Donc, il faut aller le partager avec du monde extérieur.
C'est à chaque fois, un artiste rencontre son public. On peut le dire, que ce soit un chanteur, un comédien, d'une façon ou d'une autre. Dans le spectacle vivant, il y a vivant aussi. Le même spectacle que vous allez avoir dans deux villes différentes... l'acteur n'imitera pas les mêmes intentions. Ça, à chaque fois, c'est un moment instantané, on va dire. Quoi. Ça sera le même spectacle, mais pas forcément avec les mêmes émotions, aux mêmes endroits.
Bon, c'est vrai qu'il vaut mieux déplacer un artiste et un peu de matos que
tout le monde a
1000 personnes. Ouais. Et alors... On parlait tout à l'heure de... Il y a un peu quand même maintenant des incitations donc au niveau de vos financeurs, enfin des financeurs des compagnies ou des salles.
Là, il faudrait plutôt questionner des administrateurs, mais moi, oui, j'ai déjà vu dans les dossiers des questionnaires qui sont mis sur qu'est-ce qu'on peut mettre en place pour réduire notre empreinte écologique. Donc, y a un questionnaire qui est mis, où on peut cocher des cases, marquer des observations à certains endroits sur arriver à faire un bilan de quel est le coût énergétique de la compagnie par rapport à ses réalisations, ce qu'elle fait, et qu'est-ce qu'elle va mettre en place pour essayer de le réduire. Après, moi, je bosse avec des compagnies où on est obligé de prendre l'avion quand on va jouer en Corée. On veut bien y aller en bateau à voile, mais... le coût financier serait à peu près énorme pour y aller. Donc, tout n'est pas réalisable après, pour l'instant. Après, j'espère que demain sera mieux.
Oui, mais tu sens que ça progresse quand même. Qu'il y a eu une évolution.
Oui, je pense qu'une évolution, surtout une prise de conscience. Ça veut dire que les artistes... ont pris conscience, et là je dis même, je pense, les plasticiens, tous les artistes, de cette importance-là, d'avoir ce questionnement-là. Quand on crée, si on a ce questionnement-là, forcément, on peut déjà baisser notre empreinte écologique. Mmh. Si déjà on crée dans ce sens-là.
Et on crée différemment aussi.
On crée différemment. Moi, je vois des spectacles qui ne jouent pas en salle, qui vont jouer en extérieur, mais que de jour, pour ne pas avoir de lumière.
Ou qui vont jouer
en acoustique.
C'est quand même bien.
Voilà, le spectacle était... on n'a pas obligé le créateur à faire ça. C'est le créateur qui a choisi de le faire. Après, voilà, moi, je trouve que c'est ça qui est important dans la culture, quoi. C'est de laisser la création quand même vivre, même si on doit tenir compte de notre empreinte écologique.
En intégrant des nouveaux critères, mais...
Voilà. Après, voilà, je ne sais pas quoi dire mieux.
Évidemment, il ne s'agit pas de tout arrêter, comme je disais tout à l'heure. Hein. Bon, pour finir, les salles, t'en penses quoi? Parce que c'est, dans ce que j'ai pointé, c'est un truc un peu important aussi, en
fait.
Moi, je trouve que la consommation d'énergie des salles...
C'est très important. Quand on dit les salles de spectacle, après, on le voit dans énormément de bâtiments publics ou à vocation d'accueillir du public, c'est qu'en fait, on a vécu sur nos lauriers pendant des années.
L'abondance énergétique. On a pris du retard, donc, du coup.
C'est pris du retard et aussi, on a eu des attachements sur certains lieux où on a toujours essayé de les rénover, alors que maintenant, on prend conscience qu'avec les nouveaux matériaux, il y a un moment, il vaut mieux tout démolir et reconstruire du neuf. Pour avoir quelque chose qui correspond plus aux nouvelles offres culturelles et techniques dont les artistes ont besoin, et aux accueils des publics. Et moi, je vois à Saint-Étienne qu'il y avait la Comédie de Saint-Étienne, qui était un bâtiment assez vieux et historique. Et à un moment, ce bâtiment-là, ils l'ont transformé en autre chose. Et la Comédie de Saint-Étienne s'est fait construire à un autre endroit, un bâtiment qui est plus fonctionnel pour le travail, qui correspond plus au nouveau spectacle, au niveau des dimensions et des hauteurs. Des techniciens qui travaillent aussi, parce que moi j'ai travaillé dans des salles où c'était un peu le travail des pharaons, où quand les semi-remorques arrivaient, on était obligé de tout décharger
à la main,
passer par des petites rampes.
C'est l'avantage de faire une nouvelle salle aussi, du coup.
Voilà. Quand on voit maintenant dans un zénith, le camion, il rentre dans la salle.
Ils versent tout, comme ils ont refait l'Olympia en le déplaçant.
Voilà.
Ouais. Et j'imagine mieux isolé, j'espère.
Mieux isolé, oui.
Oui, ils l'ont déplacé. L'Olympia a été déplacé d'un numéro et ils ont rasé l'autre bâtiment.
D'accord. Donc, si on comprend bien, Hervé, il va falloir raser la Genette Verte.
La Genette Verte, c'est quand même pas un lieu qui est si vieux que ça. Après, je dis pas qu'il faut pas y faire des travaux.
Mais au niveau énergétique, je pense qu'on n'est pas au top. Là, mais on peut rien dire vu nos locaux de la radio.
Oui, il y a un peu de mousse quand même.
Il y a de la mousse, mais...
Je tiens à dire que si la Genette Verte, l'été, dans la salle, on peut rester un peu au frais.
Oui, elle marche pour la fraîcheur. Je pense qu'au niveau chauffage, je ne sais pas trop comment.
Si la chaleur rentre pas, c'est que.
C'est déjà qu'elle ne sortira pas non plus.
Après, la production de chaleur est peut-être pas.
Je n'ai même pas commencé. C'est quoi
C'est des radiateurs électriques.
C'est de l'électricité à la Genève.
Oui.
Vu la taille des bâtiments. Comme la salle est faite.
Oui. Je pense aussi, je ne sais pas. Je ne me suis pas posé la question.
Oui, c'est
pas du tout que. Je pense qu'elle est plus énergivore, la salle des fêtes.
Ouais, je pense, vu les volumes.
Il y a des trucs au gaz.
Mais je trouve que, pareil, on revient sur ce qu'on disait tout à l'heure. De toute manière, le prix de l'énergie qui a augmenté a sensibilisé quand même plein d'institutions publiques.
Tout le monde se repose des questions.
À rénover, voire à démolir pour reconstruire.
Ou changer complètement les modes de chauffage, les modes de vie, les modes de fonctionnement. Donc, on tape toujours sur le porte-monnaie, mais.
C'est le moteur, c'est le nerf
de la guerre.
Après, j'ai un exemple assez flagrant là-dessus. Quand on était en Corée, le prix de l'énergie est très élevé. Et je dirais à peu près 3 fois celui de la France. Les salaires ne sont pas beaucoup plus élevés. Mais du coup, j'ai quand même été assez surpris de voir une marque coréenne qui faisait un frigo-congélateur, comme nous on peut avoir chez nous, qui, quand je regardais la plaque derrière, c'était marqué 90 watts. Je me dis que les industriels savent faire, mais voilà.
Parce que 90 watts, c'est pas beaucoup.
C'est pas beaucoup, non.
Ah oui, pour un frigo.
Je sais pas combien c'est un frigo chez nous.
Je sais pas.
Ouais, je dirais que ça va de 500 à 700.
Ah oui. Donc, ah, oui.
Donc on sait faire, mais on l'a pas, on veut pas l'acheter chez eux.
Ils après, veulent pas, bah, c'est ou ça, ou après peut-être que le matériel dure moins longtemps. On peut pas rentrer dans ces détails-là, mais quand même, le matériel existe parce que le prix de l'énergie est très cher.
C'est pour ça qu'on l'a développé.
Voilà.
Vous voyez, le réflexe du technicien, il regarde la plaque du frigo. Ouais.
Nous, ça ne nous traverserait même pas l'esprit, mais on ira voir les plaques de frigo si
la prochaine fois,
si on va à l'étranger.
Ouais.
On va faire une petite pause musicale maintenant avec Ridan, Objectif Terre.
Elle pleure, ma planète. Elle sent que sa fin est proche et ça la rend folle. Dites-leur, dites-leur, dites-leur qu'ils s'en foutent.
Pourquoi tu pleures? Pourquoi
la terre en aura le bonheur, point, c'est tout.
Aujourd'hui j'ai de la chance, je suis encore là. Je vais pouvoir voir le ciel encore une fois. L'air pur ici aussi se fait si rare que même les clébards disent qu'il y en a marre de respirer cette merde à plein poumon. Tout ça pour qu'un petit con gagne des millions. Tu sais que notre vie de chien ne suffit bien. Pas besoin de choper le cancer des êtres humains. Nous paierons cher sans doute votre insolence. Vous jouez avec ce monde par négligence. Les frontières de vos cartes n'y feront rien. Cette terre n'est pas à nous, vous le saurez bien.
Elle pleure, elle pleure, elle pleure, ma planète. Elle sent que sa fin est proche et ça la rend folle. Dites-leur, dites-leur, dites-leur qu'ils sont fous.
Je suis sa mère. Vous déchaînerez mes nerfs, je serai guère. Qu'elle vole vos maisons au-delà des mers. Vous donnerez des noms à mes colères. Vous êtes la raison de vos prières. Et vous aurez raison de vos cimetières. Qu'elle jaillisse les eaux sur votre espèce. N'aurez plus conscience de votre petitesse. Je ferai de vos villes ce bel enfer, plus chaleureuse encore que le paradis. Vous tremblerez de peur dans vos demeures, car l'homme a fait de l'homme cette chose sans vie.
Elle pleure, elle pleure, elle pleure, ma planète. Elle sent que sa fin est proche et ça la rend folle. Dites-leur, dites-leur, dites-leur qu'ils sont fous. La terre en a ras-le-bol. Elle pleure, elle pleure, elle pleure, ma planète. Elle sent que sa fin est proche et ça la rend folle. Dites-leur, dites-leur, dites-leur qu'ils sont fous.
De retour, vous êtes toujours sur 1, 2, 3 Climat sur Radio Bartas et maintenant nous allons discuter avec Sophie pour les discussions sur un festival, le festival local du Festival de la Soupe.
Mais les climato-sceptiques, ils n'ont pas le droit de parler quand on veut faire une émission. Parce qu'il y a des gens qui, effectivement,
promettent. Il n'y a plus de climato-sceptiques.
Si, il y en a beaucoup, madame.
Ah non, mais c'est incroyable.
Non, il y en a beaucoup, madame.
qui pensent pas
comme vous. Non, mais écoutez, sans dire ça, je suis fier de ne pas imposer aux autres de ne pas dire ce qui vous plaît pas.
Mais vous êtes, on est au 21e siècle.
Non, mais ça suffit, cet argument.
Non, mais c'est pas possible.
Mais si vous ne me laissez pas parler, j'arrête.
Allez vous cultiver scientifiquement, enfin.
Sophie, là on va parler du festival, de la soupe. Mais du coup, toi ça fait longtemps que tu y es, tu as été autre chose que ce que tu y fais maintenant.
Autre chose.
Tu as eu d'autres
missions. Je suis toujours restée la même,
missions.
Mais d'autres, effectivement.
Tu as fait plein de trucs dans le pour le festival, dans l'association du festival de la soupe.
Ouais, j'ai été plusieurs années dans le conseil d'administration, donc plus impliquée, on va dire, dans l'organisation globale du festival. Et puis là maintenant, ça fait quelques années que je ne suis plus dans le CA. Et donc, je fais partie de la toute nouvelle commission éco-responsabilité.
Toute nouvelle, c'est-à-dire ?
De 2024.
C'est tout jeune.
Voilà, donc c'est tout jeune. Ceci étant, avant, on faisait déjà pas mal de choses. Et notamment, je travaillais déjà sur ces questions-là, mais on n'était pas organisé en commission. Et là, l'idée de s'organiser en commission, c'est justement parce que, bon, à la fois, on va dire, ces questions prennent peut-être un petit peu plus d'importance. Et puis aussi, justement, ça fait longtemps que le festival met en place des choses, mais on va dire un peu au coup par coup. Et sur certaines actions, on va parler déchets, on va parler... Il y a un moment, il y avait besoin d'un peu plus de coordination.
Oui,
d'un
de peu structurer plus, un peu plus ça. Ouais, d'accord.
Et penser en amont, penser les actions en amont. Parce que de l'intention jusqu'à la réalisation, y compris l'action des bénévoles pendant le festival, tout ça. Donc c'est plus facile de le penser. Donc voilà, à la soupe, on fonctionne en commission. Hein, chaque commission a un peu ses thématiques. Et on va dire, plutôt que penser tout seul dans son coin, c'est quand même plus sympa d'être à plusieurs et penser la question en commission. C'est quand même un peu plus riche. Ouais, donc voilà, donc l'idée de la commission, c'était ça, c'était de dire on va se mettre à plusieurs autour de ces questions, à la fois pour partager et penser, bien penser un peu ces actions, et puis on va se dire d'année en année, se dire peut-être que cette année on va essayer d'aborder un nouveau thème et d'avancer sur ces questions progressivement. Mais voilà, mais comme je dis, moi parce qu'à un moment vous me posiez la question, je ne sais pas, de dire pourquoi, qu'est-ce qui vous a fait vous intéresser à ces questions.
Qu'est-ce qui vous... Voilà, c'est ça. Quelle est la motivation, en fait, pour arriver à créer cette commission, en fait, ou avant la commission, même.
Alors, la commission, j'en ai parlé, mais c'est vrai que sur les thématiques d'éco-responsabilité, je ne saurais pas répondre à la question, parce qu'en fait, j'ai l'impression que ça fait un peu partie, quand même, de l'esprit de l'équipe de la soupe depuis longtemps. Le festival de la soupe, c'est vraiment un festival, on va dire, sur un principe très simple, hein. Descendre dans la rue avec sa soupe et partager la soupe avec les gens et faire la fête. Donc déjà, c'est quand même assez simple, très local, très dans un esprit de partage. Et puis, bien sûr, faire la fête, du coup, derrière, le festival propose une programmation avec des spectacles, de la musique. Mais c'est quand même, ça c'est une partie du festival, mais l'ADN du festival c'est quand même le côté participatif des festivaliers.
C'est la soupe.
La soupe, oui. Et puis aussi des initiatives d'animation, on fonctionne beaucoup avec les associations locales qui peuvent proposer des choses. Et du coup on est beaucoup dans l'état d'esprit local que vous connaissez comme moi, où je pense que cette sensibilité elle est quand même assez présente. Et moi je réfléchissais là en vous écoutant, mon premier festival c'était 2009. À la buvette, il y avait déjà des éco-cups, on servait déjà de la bière locale et voilà, et c'était pas la première année. Donc quelque part, par rapport à la discussion qu'on avait tout à l'heure, je sais pas comment leur est venue la question, mais j'ai l'impression que c'était assez naturel. Je pense à cette question des éco-cups, je parle de 2009.
C'est un exemple qui illustre le truc, mais parce que on peut faire peut-être un petit rappel. Bon, il y a beaucoup de gens qui connaissent la soupe, évidemment, mais bon, il y a tout ce qu'il y a autour de la soupe, mais il y a aussi des concerts. Enfin, donc on retombe dans les. C'est un festival en fait avec plein de choses, quoi.
Oui, oui. Ouais. Donc voilà, effectivement. Après, là, je prenais cet exemple sur la buvette. Alors sur la partie effectivement spectacle en tant que tel, j'écoutais Hervé, j'avoue que j'ai pas forcément beaucoup d'infos sur, et je suis pas sûre, mais je veux pas être sûre, oui. je mets quand même une inconditionnelle, oui. Je suis pas du tout sûre que la question soit pensée. Après, ce que je dirais, c'est qu'on est sur des spectacles dehors, donc on n'a déjà pas la question des bâtiments, sauf quand il pleut.
Oui, ça, voilà, de chauffer le bâtiment, de temps en temps.
Ce qui est un peu la spécialité du festival de la soupe.
Pas tous les ans, tous les ans quand même. Hein, ouais. Mais après, on est quand même sur des petites compagnies, on n'a pas des gros décors. Il n'y a pas forcément des grands décors. Toute la partie déco de la soupe, c'est la soupe qui la confectionne, c'est beaucoup à partir de récup. C'est vraiment notre système, un peu système
D. Et du coup, vous réutilisez un peu les choses qui se sont faites, vous les arrangez, vous les repeignez.
On y met déjà tellement d'énergie, parce que c'est que du bénévolat, que quand on a des trucs qui sont en état et puis qu'on est bien content, on les ressort chaque année. Hein. Je pense que vous connaissez tous
les
trucs que vous voyez, les caravanes, les légumes, les casseroles.
On les voit cachés un petit peu tous les ans, toutes
toute l'année.
Donc voilà, et sur la partie technique, par contre, des techniciens, je ne sais pas du tout s'il y a quelque chose qui est demandé sur la partie éclairage. Après, je ne pense pas qu'on soit sur du gros matériel. Ça reste des scènes assez simples, mais ce n'est pas mon domaine.
Tu es intervenu sur la soupe, Hervé, ou...
Non, jamais.
Jamais. Mmh. Bon.
Trop petit.
Non.
Après, moi, c'est pas une question de taille, hein, parce que je suis intervenu à Barjac pour un festival du clown qui est même plus petit que. Après, moi, c'est pas la taille. Après, c'est plutôt l'affinité et les disponibilités. Ça veut dire que quand je m'engage auprès d'un artiste à le soutenir sur le montage de son décor. Ça veut dire que lui, il a investi de l'argent sur moi déjà pour qu'on répète, qu'on fasse la chose. Donc, je me dois de garder de la disponibilité pour lui. Donc, j'essaye de pas trop me bloquer sur certains événements
à date fixe.
Alors, donc sur la soupe, donc on a compris Eco Cup depuis
2009.
Au moins 2009. Avant,
après,
on se rappelle plus.
Par exemple, dans les choses qu'on avait mis en place, qui datent aussi pas mal, hein, moi, je crois que ça devait être... En tout cas, c'était largement avant le Covid. Je réfléchis par rapport à des repères. Oui, ça devait être au moins 2012 ou 2013, oui. Je ne sais plus. Peut-être après, quand même. Mais en fait, c'est la question des toilettes sèches.
Oui.
Parce que sur les festivals, donc jusque-là, pendant plusieurs années, on fonctionnait avec les toilettes publiques, qui n'étaient pas suffisants. Et donc, du coup, c'est posé la question de proposer des espaces de toilettes gérés par le festival. Et très naturellement, c'est la question des toilettes sèches qui s'est imposée. On utilise, nous, des caravanes transformées avec des cabines de toilettes sèches, qui sont des caravanes mutualisées entre plusieurs assos au niveau de la Lozère. Donc il n'y a pas que le Festival de la Soupe qui fonctionne comme ça.
C'est les caravanes mutualisées.
Les route boys sur le Blémar.
Le Blémar, oui.
Et puis la deuxième, je ne sais plus. Mais en tout cas, ce n'est pas des caravanes de la soupe, pour le coup. Et donc, en fait, elles tournent d'un festival à l'autre. Donc c'est quelque chose qui est mis en place depuis pas mal d'années. Donc au début, on parlait de l'évolution. C'est vrai que moi, pour le coup, je m'en suis occupée depuis le début. Donc je vois bien l'évolution, tout simplement, du volume de vidange, puisque parlons concret. C'est clair que les premières années, on voyait bien que les gens se questionnaient. On n'avait qu'une caravane, d'ailleurs, sur ce que c'était. Peut-être un peu comment ça marchait, puis il y avait un peu d'hésitation. Je veux dire, maintenant, on voit bien que les gens ne se posent même plus la question. Donc du coup, maintenant, on a deux espaces.
Voilà, le public s'est habitué aussi à...
Et ça marche.
C'est le système. Ouais.
Après, ça marche. Donc, par contre, c'est vrai que sur une action comme ça, le gros... on va dire, dans les points importants, bien sûr, il y a d'avoir l'infrastructure. Hein, donc, nous, comme on dit, c'est des caravanes mutualisées d'assaut en assaut. Il y a la question, une grosse question de bénévolat, parce que pour le coup, il y a un travail derrière de gestion des caravanes pendant le festival qui est quand même pas négligeable. Donc ça aussi, on a travaillé là-dessus, parce qu'au début, les gens n'ont pas envie d'aller vider les toilettes sèches. Et puis alors, ce qui est assez étonnant,
c'est
que...
C'est pas le rôle le plus gratifiant, effectivement.
Alors en même temps, je peux vous dire que ce qui est super, c'est qu'en fait, quand on le fait, tous les gens, parce que souvent, il y a des gens qui attendent devant la caravane, et donc en fait, on disait, excusez-moi, on vient faire la vidange, et en fait, les gens nous disent merci, parce qu'on leur propose un espace propre, parce qu'on nettoie. Et il y a souvent beaucoup d'échanges. Moi, c'est des moments où je discute avec les festivaliers. Et les bénévoles qui le font, souvent, à la fin, ils nous disent, mais en fait, c'est pas vraiment un problème. À la rigueur, l'année prochaine, dites-nous, on veut bien continuer. Donc, il y a aussi ça qui se... on va dire, qui se met en place, c'est en fait d'enlever certaines représentations un peu négatives autour de ces questions. Comment on gère ce qui ressort du festival, y compris les jurys, les experts, toutes ces questions. Ouais. Et donc, en fait, et puis l'autre élément, nous, en fait, on récupère la matière dans des grosses poubelles. Et donc, après, on a un partenariat c'est un agriculteur au niveau local qui récupère pour, en fait, le composter, le mettre sur...
Ça part en compostage dans ses champs.
Voilà. Parce qu'il y a ça aussi. Après, c'est quoi en faire
Ça fait un fort volume d'un coup, quoi.
Au bout de trois jours,
il faut des terres.
Pour avoir une idée comme ça, juste du boulot que ça représente, et c'est quoi comme volume? C'est en nombre de poubelles, en fait?
Parce que nous, on utilise effectivement les poubelles noires, les poubelles de 100 litres, là, les poubelles... Ouais. Une soirée, c'est une dizaine de poubelles.
D'accord.
Donc, un peu moins le vendredi soir, gros du samedi soir.
Trois soirées.
Et puis après, il y a la journée, le samedi, le jeudi un peu moins quand même. Donc voilà, vous êtes sur une trentaine à peu près.
Il y a de la manutention.
Ça fait de la manutention, ça fait des volumes, mais si ça se passe bien. Donc c'est une solution qui fonctionne.
En tout cas, c'est une solution qui fonctionne, qu'on met en place depuis pas mal d'années. Et puis, cette année, par contre, on a beaucoup travaillé le tri des déchets, en fait. Donc ça a été un peu... Alors, c'est pareil, c'était pas la première année. L'année dernière, ou il y a deux ans, je sais plus, on avait déjà commencé à mettre en place sur le festival, en fait, on avait conçu, avec l'espace, avec l'atelier de la déco, des containers de récupération, un peu made in local, festival.
Qu'est-ce qu'il y a comme déchets? Parce qu'on a son bol pour la soupe.
Ouais, alors...
Celui-là, on ne jette pas, généralement.
Non.
En général.
Alors, dans les déchets,
les éco-cups. Mais du coup, il y a d'autres déchets.
Ouais, là, il y a quand même des bouteilles en verre parce que tout le monde ne consomme pas la buvette et on a quand même des canettes. Oui. Donc ça, c'est voilà. Ouais. Mais ça, on peut pas empêcher. Et puis, il y a aussi, comme en fait au niveau de la restauration, donc ce qu'on appelle les grignotes, c'est des stands proposés par les associations locales. Donc c'est un partenariat avec les assos qui bénéficient de l'espace du festival pour vendre, faire un petit peu de bénéfices. Et nous, ça nous permet de proposer la restauration sur le festival. Et donc forcément, quand ils proposent des sandwichs, des crêpes ou même des plats qu'ils confectionnent, c'est de la vaisselle jetable en fait. Donc il y a tous ces déchets-là.
Ça fait vite du volume.
En recyclable du coup. Et puis cette année, on a aussi les déchets organiques, parce que qui dit faire la soupe dit éplucher des légumes. Tant qu'à faire, c'est pas de la soupe en boîte. Hein. Et c'est donc,
Tu peux peut-être bien figurer au concours avec une soupe en boîte, mais c'est un peu plus aléatoire, on va dire.
Et donc du coup, il y a aussi la question des déchets organiques.
Oui. Et donc, ça, c'est géré comment, alors, les déchets organiques, pareil
Du coup, cette année, on a l'avantage qu'on a, on a travaillé cette année avec le syndicat environnement Sud-Lozère, qui gère toute la partie déchets. Et c'est vrai que cette année, on a bénéficié du fait qu'ils ont mis en place des composteurs au niveau de la place de l'église à Florac.
Il y a les composteurs publics,
voilà.
Donc, qui est une obligation qui n'est jamais respectée depuis quelques années, depuis un an, le compostage est obligatoire.
Donc nous, ça nous a facilité les choses, puisqu'en fait, l'idée, c'était plutôt de proposer des espaces où les gens pouvaient déposer les épluchures, tout ça, donc notamment au niveau de la cuisine collective, où les gens peuvent faire leur soupe. Et puis après, c'est juste, encore une fois, de l'organisation bénévole pour régulièrement aller les vider dans les composteurs.
Vider, évidemment.
Donc voilà. Et
donc, le tri des déchets, donc les emballages et tout ça, là, dû à la grignote, donc ça, c'est mis en déchetterie et...
On multiplie, donc l'idée depuis quelques années, c'est de multiplier sur le festival des espaces de collecte pour en fait après, donc après à Florac, vous le savez, le tri des déchets se fait dans les gros conteneurs, les gros espaces de tri, donc après, donc d'avoir sur le festival plusieurs petits spots de collecte avec des petits contenants qu'on peut aller vider ensuite dans les gros contenants. Donc encore une fois, c'est de la manutention derrière, Et donc, par rapport à ça, on teste différentes manières de faire. On va dire, il n'y a pas de blocage. C'est juste qu'il faut arriver à trouver, d'améliorer de festival en festival, la lisibilité des points de collecte, que les gens respectent les consignes de tri. Bon, ça, c'est pas trop mal, je trouve. On voit bien que les gens ont quand même l'habitude. Sauf si on leur met un conteneur qui n'est pas éclairé sous un lampadaire la nuit. On s'est rendu compte que, du coup, il y avait des petites erreurs entre le conteneur à verre et le conteneur jaune. Mais effectivement, on s'est dit, l'année prochaine, il faut qu'on fasse gaffe.
Venez avec votre frontal, c'est à quelle heure dire. Venez avec votre frontal.
Visez les lampadaires, mais qui s'éteignent à 23h.
Ouais. Oui, pour la soupe, ils sont prolongés quand même.
Heureusement.
Heureusement. Donc, le tri, cette année, c'était un peu le gros de ce sur quoi on voulait avancer. On a expérimenté des choses, on voit qu'il y a des choses encore à améliorer. On va dire d'année en année, on va progresser pour affiner notre truc.
Et vous êtes en contact avec d'autres festivals pour échanger justement là-dessus ou chacun mène un peu sa barque?
Il y a eu, je ne sais pas s'il y a encore, il y avait un moment effectivement une sorte de dynamique interfestival pour échanger sur les bonnes idées, puis avec l'idée de mutualiser du matériel. Je ne sais pas trop où ça en est. Je pense que c'est... Après, je sais qu'au niveau du réel, là, parce qu'en fait, sur aussi les actions de tri, le réel, cette année, nous avait proposé, comme il y avait des financements du SDE pour des animations. Il y a eu cette année une animation sur le tri des déchets pendant le festival, en fait.
Oui, c'est pas mal.
Donc c'est pas mal. Après, c'est pas toujours évident, pendant un festival où les gens viennent pour complètement autre chose, de donner une lisibilité à un stand qui est sur une thématique qui n'est pas vraiment directement en lien avec ce que les gens viennent faire.
Un peu contraignante quand même.
Voilà, mais bon, cette année, de toute façon, c'était pas une très bonne expérience parce qu'il pleuvait, donc c'était un peu compliqué, mais ça s'est quand même c'était quand même intéressant. Et donc, du coup, je sais que le réel nous a demandé, mais donc il nous a posé la question comme ça, on a répondu favorablement, mais pour le moment, il n'y a pas eu de suite, de dire est-ce que ça vous intéresserait que justement, à plusieurs festivals, on réfléchisse un petit peu, de façon un peu collective, à ce qui pourrait être fait sur ces questions. Donc en tout cas, voilà, il y a des intentions, il y a des dynamiques, il y a des choses autour de ça, mais voilà, c'est vrai que moi, personnellement, je n'ai pas participé à des cercles d'échange, en fait.
Justement, récupérer l'eau de pluie, ça pourrait être pas mal, non ?
Pendant la soupe, oui, on peut en récupérer pas mal, généralement.
La récupérer, faire tourner une petite roue pour générer de l'électricité.
Pour produire
de
l'électricité,
ou laver la vaisselle.
Ou laver la vaisselle.
Parce que ce que tu nous disais, une réflexion pour les grignotes, d'avoir pas de vaisselle, arrêter la vaisselle jetable.
Ouais, alors ça, c'est peut-être un chantier à venir qu'on voudrait travailler, c'est un espace de lavage. Où en fait les festivaliers, alors bien sûr encore une fois avec de l'encadrement bénévole, pourraient venir laver la vaisselle. Donc l'idée serait effectivement que sur les stands de grignotes, ils puissent utiliser une vaisselle non jetable, qui puisse ensuite être lavée et donc
non jetable mais incassable.
Ouais, voilà. Oui, c'est ça. Voilà, c'est toute la réflexion.
C'est une organisation un peu pointue là aussi. Mais bon, ouais.
Ben, comme je disais, en fait, le festival des Tours du Monde à Chanac, ils le font. Quand moi j'étais allée, pas cette année mais il y a 2 ans. Du coup, j'étais allée à un stand pour manger. Elle m'avait donné une assiette. Et après, j'étais allée la porter à un espace.
Et tu l'avais ramenée ensuite
Alors, en fait, du coup, c'est... Alors, eux, justement, mais il faudrait que je reprenne le temps de rediscuter avec eux. Parce que c'est qu'en fait, eux, du coup, c'était pas les festivaliers qui lavaient leur vaisselle.
Il y avait une équipe.
C'était une équipe qui le faisait. Et j'avais posé la question. Apparemment, ils avaient commencé par un système où c'était mis à disposition des festivaliers. Et ils estimaient que c'était pas assez... Qu'il y avait... Je veux dire, comme l'eau était jamais assez chaude et tout ça, il y a un moment... Voilà, c'était pas propre et que c'était un niveau hygiène, ça les dérangeait. Donc voilà, en fait, c'est quand même toutes ces questions derrière, effectivement, d'arriver à quelque chose, de trouver le bon équilibre entre faire assez simple et adapté à nos moyens et en même temps, quand même, qu'il soit propre, organisé, rangé, enfin, que ça tourne, quoi.
Ça fonctionne.
Ça fonctionne. Mais en tout cas, ça, c'est une idée qu'on a en tête parce que, comme je dis, sur les déchets recyclables, une grosse partie vient quand même des emballages liés, en fait,
à la gagnotte.
Oui, c'est vrai. Bon, à suivre, on va dire. Voilà, bravo, en tout cas.
Oui, ça progresse.
Bravo. En fait,
c'était déjà bien intégré dans la culture locale et festivalier, on va dire, et des bénévoles de la soupe, parce qu'on connaît un peu tous comment ça marche.
Ouais. Et puis même sur le comportement des gens, je prends un exemple. C'était pas cette année, l'année d'avant. Donc on avait déjà mis en place des containers de tri, mais c'est vrai qu'on n'était pas hyper organisé au niveau des bénévoles pour les vider régulièrement. Et puis, ils étaient mal situés. Donc pendant la soirée, ils s'étaient remplis, ça débordait. Donc à 3h du matin, quand on a fait le clean de l'espace, déjà, je pense que par rapport à certains festivals, moi, je trouve que c'est pas si sale que ça. C'est-à-dire que je pense que globalement, les gens sont quand même assez responsables par rapport à leurs déchets. Et en fait, tous les bouteilles en verre qui ne pouvaient pas rentrer dans la poubelle, les gens les avaient mis tout derrière la grille du monument aux morts. Comme ça, on avait tout. Donc en fait, c'était le souci de quand même les rassembler, que ça ne soit pas en plein milieu, ça se casse et que les gens marchent dessus. Et puis du coup, on
c'est un peu comme une grosse poubelle, en fait.
Ouais, mais donc du coup, je m'étais dit, il y a quand même un côté de responsabilité, enfin, il me semble, des festivaliers. Enfin, moi, j'ai l'impression, j'ai pas une expérience de plein de festivals, j'ai l'impression qu'on est quand même sur un public qui a quand même une sensibilité et que ça facilite quand même les choses.
C'est plus simple à mettre en place, quoi, du coup.
Ouais, voilà.
Ouais, super.
Voilà. Et puis après, je vous entendais parler de la question de la mobilité. Ça serait une question aussi. Mais c'est vrai que, en Lozère, on va dire qu'on manque un peu d'infrastructures collectives. Donc, c'est pas évident.
Oui. C'est un problème qui se pose dans d'autres domaines en Lozère. Donc,
on va dire, pour le moment, c'est un axe où on ne sait pas trop si on a beaucoup de marge de progrès, en fait.
Les gens viennent... Bon, il y a les locaux, mais il y a les gens qui viennent de l'extérieur. Ils sont là pour plusieurs jours, en fait.
Mais on n'a pas beaucoup de solutions pour venir à Florac qu'en voiture individuelle. On peut le tourner dans tous les sens qu'on veut.
Alors, à part ce qu'on avait fait cette année, puis je crois que ce n'était pas la première année, c'est de proposer, avec les systèmes d'événements de covoiturage. Un événement qui fait que les gens peuvent plus facilement covoiturer. Mais j'ai aucune idée de savoir si ça marche ou pas, beaucoup de gens s'étaient inscrits, je ne sais pas.
Il y a combien de participants sur un festival à soupe?
C'est approximatif parce qu'on n'a rien qui nous permet de le compter. Et pour donner une idée, cette année, on a vendu 3500 bols. Donc ça donne une idée, sachant que tout le monde n'achète pas de bols. Donc on est plutôt. On pense qu'on est à peu près sur 5000 personnes de cet ordre-là. Mais c'est grossier. On n'a pas de, comme on n'a pas d'entrée, on n'a pas de billetterie, on n'a pas de comptage, en fait. Mm-hmm. Donc ça, voilà.
Et combien de bénévoles ?
On est sur une centaine. Alors après, sur la soupe, on a un système où les bénévoles peuvent donner juste par exemple un petit créneau de 3 heures ou 4 heures. Ce n'est pas forcément des gens qui s'organisent pour être bénévoles sur tout le festival. Donc ça nous permet vraiment... nous, notre objectif, c'est vraiment de favoriser vraiment l'idée de participatif, de festivalier impliqué, on va dire. Donc ça explique aussi qu'il y a quand même un nombre important. Mais je dis une centaine. C'est vrai que moi, je m'en occupe plus maintenant. Avant, je m'en occupais, mais je pense que c'est de cet ordre-là.
Mmh, mmh. 5000 personnes, bon, bah, c'est vrai que ça fait... quand même, beaucoup de trucs à
la fin
gérer,
de la saison, c'est la soupe.
Voilà.
Mais alors, finalement, depuis que tu t'intéresses et que tu participes à ce festival, la fréquentation, elle a augmenté. Il y a de plus en plus de monde à y participer, ou bien finalement, ça reste à peu près toujours pareil. Je veux dire, le festival, comment il évolue ? Est-ce qu'il y a plus de monde ? Est-ce qu'il y a plus de jours ? Comment,
Je pense que maintenant, on est arrivé à peu près à un niveau qui me semble... Alors encore une fois, c'est intuitif, hein, qui semble à peu près relativement stable. Après, il y a toujours le facteur météo qui varie, sachant que nous, on est sur un festival où même quand il pleut, les gens sont là. Donc c'est assez étonnant, très satisfaisant. Ouais. Puisque cette année, c'était quand même un festival pluvieux et on a vendu nos 3500 bols, donc c'était quand même chouette. Et bien sûr, forcément, dans les premières années, moi, j'y étais pas. Hein, ça a commencé, ça a 23 ans, 24 ans, je sais plus. Donc oui, ça a commencé dans les années 2000, quoi. Enfin... Donc c'est sûr que forcément, au début, il y a eu une montée en puissance d'un festival qui était avant sur une journée, qui est passé à deux jours. Et là, ça fait quand même pas mal d'années qu'on est sur ce format du vendredi après-midi, vendredi soir, samedi soir. Et où, en fait, au niveau de la fréquentation, ça se stabilise. On ne fait plus vraiment de publicité. C'est beaucoup du bouche à oreille. C'est un choix aussi, hein. J'entendais parler des flyers, de la publicité.
Oui, nous, déjà, il n'y a pas de papier, quoi.
Bon, on fait des affiches un petit peu, parce que l'affiche, en plus, c'est un peu un côté un peu chouette au niveau design, quoi. Mais on en fait moins qu'avant. On a même diminué l'impression des programmes. Mmh. On incite les gens à aller sur le site internet. Et puis, il y a un grand programme sur le festival qui est affiché pour que les gens se réfèrent à un panneau d'affichage plus qu'à un programme dans la main. Donc, on ne fait plus vraiment de publicité, en fait. Moi, quand j'ai interrogé les gens, comment ils sont venus, ils en ont entendu parler, puis ils sont venus, quoi. Ils ont entendu, voilà, donc sur ce...
Ouais. C'est beaucoup déshabitué, quoi.
Après, je t'entendais parler de l'alimentation des techniciens. Nous, au niveau du catering, en fait, tout est végétarien. Et local. local. C'est-à-dire que l'équipe qui s'occupe du catering va favoriser vraiment l'alimentation locale. Après, ils ne vont pas tout faire en local. Mais et c'est pareil, ça fait pas mal d'années. Et j'ai l'impression comme ça, même moi je ne m'en suis pas occupée directement, mais que c'est presque quelque chose qui s'impose presque en bon sens, on va dire, par rapport à l'état d'esprit. Donc c'est vrai que sur cette question-là, c'est assez naturel, entre guillemets.
Après, moi, je pense que beaucoup de festivals essayent de faire ça. Ceux qui ne le font pas, la plupart du temps, c'est que c'est économique. C'est qu'ils ont besoin des recettes et de bénéfices sur les repas, boissons pour boucler leur budget. Mmh. Tout le monde a envie de vendre de la bonne bière. Tout le monde a envie de vendre de la bonne nourriture locale et tout ça. Mais tout le monde ne peut pas se le permettre.
Ouais, alors qu'est-ce qui fait qu'au niveau de la soupe, on peut se le permettre ? Je ne sais pas. Nous, on est sur un... Je dirais qu'on est sur un festival avec beaucoup de bénévolat. Alors, il y a, bien sûr, au niveau des équipes techniques et des artistes qui sont payés. On a une régisseuse et on a un petit temps salarié sur l'année, mais qui est assez limité.
Et votre alors, budget, est-ce que c'est par ce fait-là qu'on... Votre budget est équilibré
chaque année, enfin, bon, après, je dis pas, il y a des années avec des mauvaises surprises, globalement, enfin, chaque année, heureusement, on équilibre, voire on arrive à faire un petit peu de bénéfices pour avoir un petit coussin de sécurité, on va dire, pour les années d'après. Donc, je saurais pas dire, tu vois, au niveau du modèle économique, qu'est-ce qui fait que nous, on arrive à le faire
Bah, il faudrait voir le coût des repas, parce que quand tu enlèves la viande d'un repas, tu baisses quand même pas mal le coût des matières.
Tu baisses le coût des matières. Après, c'est plutôt sur le local et sur la quantité. Après, moi, j'ai vécu des festivals où on essayait de travailler avec les boulangers locaux. Okay. La deuxième année, les boulangers locaux, ils nous ont dit « on ne peut plus, là, nous, on ne peut pas.
Trop.
C'est trop. Donc, à un moment, il a bien fallu trouver une boulangerie qui peut fournir des sandwichs pour 250 000 personnes par repas.
Oui, alors voilà, là c'est sur du gros, t'es 250 000, c'est sûr qu'on est plus sur le même.
Mais il y a moins, moi je me rappelle du festival de la Myrtille à Finielle, où le festival, au bout d'un moment, il s'est arrêté à cause de la fréquentation, parce qu'il y avait trop de monde, et que la commune ne pouvait pas assumer ni en eau, ni...
C'était pas du tout adapté au volume.
Adapté, c'était un plaisir, je pense que les gens qui ont arrêté, c'était un crève-cœur. Moi, j'ai bossé au Pont de Montvert pour les métiers d'art. À un moment, pareil, on a dû arrêter parce que...
Trop de monde.
Et trop de monde. Et des gens qui voulaient plus de demandes et les aides qui venaient de moins en moins, qui faisaient que sans les aides départementales, régionales, économiquement, ça ne marche plus. Et que quand on est président d'une association, on est responsable pénalement sur les dettes à venir. Et qu'à un moment, eh ben, il n'y a plus personne qui veut prendre la présidence du festival. Après, on avait des gens qui avaient des idées en disant « mais il faudrait faire ça ». Mais à un moment, nous, on avait l'expérience de voir qu'économiquement, pareil, on ne faisait pas d'entrée payante. C'était un petit festival. Et qu'à un moment, la commune et encore tous les élus nous soutenaient. Tous les élus venaient faire la circulation dans les rues, venaient dire aux gens « vous pouvez vous garer là ». Nous aider à créer des parkings. Les habitants acceptaient de jouer le jeu, d'aller garer leur voiture plus loin en se disant pour laisser de la place aux festivaliers qui venaient. Mais à un moment, le festival était trop important par rapport à la taille de la commune.
Bon.
On va faire une petite pause musicale maintenant avec je sais plus, mais on va la lancer. Time to get away, gotta help myself soon. Help myself, time to get away, gotta help myself soon.
S'arrêter. Si l'on nageait sans respirer, aurons-nous de l'air cet été? Tout le monde cherche à s'échapper.
s'arrêter.
Vous êtes de retour sur 1, 2, 3 Climat, sur Radio Bartas. Ce soir, c'était, c'est toujours la culture, le spectacle, comment un peu limiter nos impacts et continuer à profiter du spectacle vivant. Et on va écouter maintenant une petite chronique, revue et corrigée dans les dernières 30 secondes de Manu.
Notre maison brûle et nous regardons ailleurs.
Qui aurait pu prédire la vague d'inflation ainsi déclenchée ou la crise climatique aux effets spectaculaires encore cet été dans notre pays?
Nous ne pourrons pas dire que nous ne savions pas.
Alors bonsoir tout le monde. Je suis un peu carbonisé là parce que finalement... Non, mais il n'y a aucun problème. C'est très intéressant finalement. Nos invités ont permis de débroussailler l'essentiel de ce que j'avais à dire. Bon. Mais donc, moi, mon thème d'intervention, c'était décarbonons le climat. Décarbonons la culture.
Décarboner le climat. Voilà.
Mais ça peut sembler étrange de vouloir décarboner la culture. Hein. Comme si l'immatériel, tout d'un coup, prenait corps devant nous, sous nos yeux ébahis. Parce que finalement, si on s'intéresse au mot culture, il a quand même beaucoup de signification. Et 150 hein, qui ont été répertoriés par deux anthropologues américains dans les années 50. Enfin, ce n'est pas vraiment le sujet. Donc, je reviens sur la question de la culture. Parce que finalement, par abus de langage, d'une certaine manière, le mot culture, aujourd'hui, on l'utilise surtout pour désigner l'offre de pratiques et de services culturels, et en particulier dans le domaine des arts et des lettres. Et comme il faut du carbone, il y a du carbone dans le papier... Et que le transport des artistes, comme l'a dit Philippe, est source d'émissions de CO2, ben finalement, ce n'est pas forcément intéressant de parler de décarboner la culture. Ça tombe bien. Mais malgré tout, ça se complique assez rapidement parce que, comme on l'a dit aussi, le secteur de la culture, ben finalement, c'est une multitude d'activités et d'organisations dans les arts visuels, le spectacle vivant, l'audiovisuel, le livre et la presse, le patrimoine, les festivals, les jeux vidéo... sans oublier les pratiques artistiques amateurs. Donc, il est parfaitement illusoire, comme le dit le fameux Shift Project également cité, que d'envisager une unique solution miracle pour décarboner tout le fonctionnement du secteur culturel. Bon, donc c'est quand même un peu problématique. Alors, ceci dit, il y a quand même des choses qui sont à peu près évidentes, je pense qu'on sera tous d'accord là-dessus, c'est qu'il est important de pouvoir former... systématiquement tous les professionnels de la culture et également le staff bénévole aux enjeux énergie-climat pour qu'ils puissent en tenir compte dans leurs pratiques au quotidien. Secondo, je pense qu'on en a un petit peu parlé aussi rapidement, il faut pouvoir compter sur des politiques publiques incitatives. Et bon, là, une visite sur le site du ministère de la Culture vous permettra de vous éclairer sur les différentes sources de financement, etc. Maintenant, si on cherche un mode d'emploi pour décarboner, eh bien, il existe un rapport qui s'appelle précisément « Décarbonons la culture » du fameux Shift Project, qui sont très ingénieux et qui proposent finalement 5 mesures. La première, c'est relocaliser les activités. Alors, finalement, quand on parle de la soupe, on est assez localisé. Évidemment, quand on est localisé, on se déplace moins. Alors, si je prends un autre secteur dont on n'a pas parlé, celui du livre... Ben, selon le choix des fournisseurs de papier, l'imprimeur, les lieux de stockage, eh ben, on arriverait à diviser par 20, les sources d'émissions. Quand même, pas rien. Bon, après, si on balaye tous les secteurs, ben, on peut arriver à peu près au même type de résultats. Donc, relocaliser. La seconde mesure, c'est ralentir. Et donc, il s'agit de rallonger la durée des séjours. Par exemple, lorsque Hervé va en Corée, eh ben, on peut imaginer que cette tournée d'artistes soit mutualisée avec plusieurs partenaires et que l'on organise plusieurs manifestations sur le même territoire, ce qui fait que ça permettrait de mutualiser les coûts liés au déplacement du matériel, des personnels, etc. Alors, il y a troisième mesure, diminuer les échelles. Et là, ça peut sembler un petit peu contre-intuitif parce qu'il vaut mieux organiser 5 festivals de 2000 personnes plutôt qu'un seul festival de 10 000 personnes. Et ça permet d'avoir un gain de 10 à 20 % sur les émissions. Donc, je pensais tout à l'heure, la soupe, par exemple, si vous avez 5000 personnes, bah, on pourrait imaginer qu'on fasse un festival à Florac, un festival au Pont de Montvert. Bah, finalement, ça permettrait peut-être d'être encore plus performant et de limiter les déplacements pour les différents festivaliers. Après, il y a un quatrième aspect, quatrième mesure, au niveau de l'éco-conception, ça, je pense qu'on en a aussi parlé, hein, qui va se traduire dans le choix de la scénographie, dans le choix des matériaux, ben, finalement, pour faire en sorte que l'impact soit limité. Et puis, il y a une cinquième mesure qui est renoncer. Renoncer, par exemple, aux gros groupes électrogènes. Renoncer aux équipements neufs alors qu'on peut avoir l'équivalent en occasion. Renoncer à certains types de transport. Et pourquoi pas renoncer à la viande pour servir...
On y revient.
Voilà. Je crois pauvre que les grands, de les grands esprits se rencontrent. Hein. Parce que baisser, supprimer la viande et la remplacer par une alimentation locale et végétarienne permettrait d'économiser quand même 15% des émissions. C'est pas rien. Voilà. Alors, il y a plein d'initiatives. Il y a celle de la soupe. Il y a aussi le festival chez l'habitant qui existait à Espagnac, qui est un peu dans le même état d'esprit. Finalement, c'est très, très local, avec une participation des habitants. Et puis, il y en a plein, des initiatives comme ça. Mais malgré tout, j'ai quand même l'impression, peut-être vous pourrez me contredire, c'est que ça reste anecdotique au regard de ce qui est produit par l'industrie culturelle lorsqu'on regarde l'ensemble du secteur. Et c'est dommage. Parce que, comme le signale le fameux Shift Project, si le secteur de la culture peut transformer nos imaginaires, parce que c'est une réalité, eh ben, il transforme aussi directement le réel. Et en effet, parce que la culture, elle travaille en lien avec le secteur de l'agriculture, le secteur du bâtiment, le secteur de l'énergie, le secteur de la mobilité, le secteur du numérique. Et ces liens qui sont étroits, et majeur entre ces différents secteurs. La culture, elle dépend de ces secteurs, mais ils interagissent avec elle. Ce qui fait qu'on peut considérer que la culture a la capacité d'être un moteur de la transition, puisque finalement, par son activité, elle va influer sur l'ensemble de ces différents sous-traitants. Alors, pour conclure, j'aurais envie de dire que, d'un point de vue sociologique, La culture, c'est aussi, ce n'est pas qu'un secteur d'activité, mais c'est aussi ce que l'on partage avec les autres pour faire société. Et c'est ce qui est commun à un groupe d'individus, et c'est ce qui le soude, ce groupe. Et c'est là qu'on mesure quand même l'étendue du chantier pour sortir du courant culturel dominant, le mainstream, et pour envisager une culture de la bifurcation qui serait fondée sur la sobriété, la créativité et la coopération.
Bravo.
Eh bien,
merci. Des réactions pour les... On a bien noté éco-responsabilité, améliorer le matériel.
Un festival au pont, un festival... Ouais.
Alors, il faut enchaîner une semaine de festivals.
Voilà, c'est ça. C'est parce qu'en fait, après, je crois qu'il y a un truc qu'il faut... Les festivals, c'est quand même beaucoup de bénévoles. On va dire, les multiplier, à un moment, c'est beaucoup d'énergie.
Les garder.
Je pense que c'est une spécificité de notre domaine culturel. Hein. Enfin, je pense que pour les festivals. Hein,
tu les multiplies, mais à plus petite échelle. C'est ce que...
Il y avait l'air
de... Et les garder. Et je pense que dans les festivals aussi, il y a une espèce d'attachement de territoire.
Très marqué.
Très marqué que moi je trouve bien, mais c'est vrai qu'il faut toujours dire que la plupart des festivals, qu'ils soient gros ou petits, existent parce qu'il y a des bénévoles, parce qu'il y a des gens qui mettent de l'énergie bénévolement pour qu'un événement puisse exister. Parce qu'économiquement, si on devait salarier tout le monde, ça serait pas possible.
Et d'ailleurs, c'est pas compté dans ce que représente la culture au niveau du
pays. Le bénévolat est pas valorisé, comme on dit, dans les budgets et tout ça.
Mais non, dans toutes les activités, il y a du bénévolat. Toutes les activités.
Il y a des chiffres qui ont été faits qui font que quand on fait le festival de théâtre à Avignon, ça représente 60% du chiffre d'affaires des hôtels à 150 km à la ronde.
La venue des gens et tout ça, les festivaliers.
Donc, les retombées économiques,
c'est vite chiffré.
On les pose toujours. Et même à Florac, le festival de la soupe, je pense que pour les commerçants, les hébergeurs et tout, c'est aussi des retombées économiques.
Oui, et puis c'est vraiment le festival de la soupe, pour nous le pratiquer depuis qu'on habite ici, c'est la fin de la saison. C'est vraiment l'image de la soupe, c'est la fin de la saison et on va passer en pseudo-hibernation où on ne voit plus les gens pendant quelques mois.
C'est vrai, ça fait un
moment qu'on s'est pas vu. Le Festival de la Soupe.
Tout à fait, oui.
Et bien voilà, merci à tous.
Merci à vous.
C'est avec plaisir.
C'était très intéressant.
Merci, à,
merci
Véro,
à nos invités.
Merci.
Merci Véro, oui. Pour, et bravo.
Et pour première émission en direct en tant que technicienne, peut-être. Donc merci beaucoup. Tu te mouches et ça s'entend aussi.
Oh, merde.
Eh oui. Bon. Eh ben, merci à tous. Belle soirée oui. Sur Radio Bartas. Et on revient le mois prochain. On n'a toujours pas la date de fixer, mais normalement, non. C'est le troisième mercredi du mois.
Jeudi. Du mois. C'est un jeudi. C'est le troisième mercredi du mois, mais le jeudi.
Le
en
jeudi.
Fait.
Et la thématique, on va la discuter
voilà,
après.
Après.
À bientôt. Belle
bonne soirée.
Soirée.
Oui, au revoir.
Au revoir.
Un, deux, trois, climat.
L'émission 100% solution.
Comprendre, dialoguer, bifurquer.
Sobriété et efficacité.
1, 2, 3, climat.
Sur Radio Bartas 107 FM.